Tony Banks accepta encore une fois de rester au magasin après la fermeture. Il l'attendrait. Au début, McCaleb progressa assez rapidement sur la 101. Le plus gros de la circulation roulait en sens inverse, tous ceux qui travaillaient en ville s'en retournant aux cités dortoirs de la vallée. Mais lorsqu'il obliqua vers le sud pour franchir le col de Kahuenga et arriver à Hollywood, il découvrit une traîne de feu rouge arrière qui s'étirait aussi loin que portait son regard. Coincé. Il était 6h05 lorsqu'il gara enfin la Taurus de Buddy Luckridge dans le petit parking réservé aux employés de la Video Graphic Consultants. Une fois de plus, ce fut Tony Banks en personne qui lui ouvrit dès après qu'il eut sonné. « Merci Tony », lui dit McCaleb tandis que Banks le conduisait jusqu'aux salles d'essai technique. « Vous m'ôtez une sacrée épine du pied. » « Pas de problème », lui répondit Banks. Son « pas de problème » étant nettement moins enthousiaste que lors de sa visite précédente, McCaleb le remarqua. Ils entrèrent dans la même salle qu'une semaine auparavant, et McCaleb lui tendit aussitôt les deux bandes qu'il avait apportées. « Sur chacune, il y a un type, » dit-il, « et j'aimerais savoir si c'est le même. »« Vous voulez dire que vous ne pouvez pas le voir ?»« Pas de façon certaine. Ils ont l'air différents, mais je crois qu'il s'agit d'un déguisement. Je pense que c'est le même bonhomme, mais j'aimerais m'en assurer. » Banks inséra la première bande dans le magnétoscope côté gauche de la console et mit en marche, la scène du braquage de la supérette commençant à passer sur l'écran de contrôle correspondant. « C'est lui ?» demanda Banks. « Oui, vous pouvez arrêter l'image dès qu'il y aura un plan net. » Banks arrêta l'image au moment où le prétendu bon samaritain apparaissait de profil en regardant loin de la caméra. « Là, ça vous va ? » demanda-t-il. « J'ai besoin d'un profil. Il est toujours difficile de faire des comparaisons quand on a les sujets de face. C'est vous le patron ?» Il lui tendit la deuxième bande. Banks la glissa dans le magnétoscope de droite, la séance d'hypnose se mettant à défiler sur le moniteur correspondant. « Remontez un peu en arrière, » lui dit McCaleb. « Je crois qu'il y a un profil avant qu'il s'assoie. » Banks relança la bande en arrière. « Qu'est-ce que vous êtes en train de lui faire ? » demanda-t-il. « Séance d'hypnose. Vraiment ? C'est ce que j'ai cru sur le moment, mais maintenant j'ai l'impression qu'il s'est payé ma tête tout du... Là !» Banks arrêta l'image. James Noon avait tourné la tête à droite, très vraisemblablement pour regarder la porte de la salle. Banks bidouilla divers boutons, grossit le plan en se servant de la souris et affina la mise au point avant d'en faire autant avec l'image de gauche. Puis il recula et contempla les deux profils. Au bout de quelques instants, il se mit à parler en sortant un crayon lumineux à rayon infrarouge de sa poche. « Ben, les teints ne concordent pas, il y en a un qui a l'air mexicain. » « Facile, » lui renvoya McCaleb. « 2 heures d'ultraviolet au salon de beauté et il a le teint qu'il veut. » Banks fit glisser le faisceau lumineux sur l'arête du nez du bon samaritain. « Regardez la pente du nez, » dit-il. « Vous voyez la double bosse, là et là ?»« Oui. » Le point lumineux passa sur l'écran de gauche et retrouva la même double bosse sur le nez de James Noon. « Ça n'est pas très scientifique, mais pour moi, ces deux types se ressemblent beaucoup, » reprit Banks. « Pour moi aussi. » « Les yeux ne sont pas de la même couleur, mais ce n'est pas compliqué d'en changer. »« Vert de contact. Voilà. »« Et ici, la ligne de la mâchoire est légèrement étirée. Là, le type de droite. »« Il s'est mis un appareil dentaire, vous savez, comme un protège-dents plastique, ou même des boules de papier comme Marlon Brando dans Le Parrain. »« Ça suffirait amplement à lui donner cette gueule-là. » McCaleb hocha la tête en remarquant que cela constituait un autre lien possible avec les films de gangsters. D'abord les cannolis, et maintenant des boules de papier pour se gonfler les joues. « Et bien sûr, les cheveux ne posent aucun problème, » poursuivit Banks. « En fait, ce gars-là me fait l'impression de porter une perruque. » Il fit passer le point lumineux le long des cheveux du bon samaritain. McCaleb s'en voulant aussitôt à mort de n'avoir rien vu sur le moment. La ligne était parfaite et trahissait la perruque. « Voyons si nous avons autre chose, » dit-il. Banks retourna à ses boutons et réduisit l'image. Puis il se servit de la souris pour délimiter un autre secteur d'agrandissement, les mains du bon samaritain. « C'est comme les nanas, » reprit-il. « Elles peuvent se coller du maquillage, des perruques et même se faire arranger les nichons, mais leurs mains, elles peuvent rien y faire. Leurs mains et parfois leurs pieds, c'est toujours ça qui les trahit. » Dès qu'il eut agrandi les mains du bon samaritain et effectué la mise au point convenable, il gagna l'autre console et grossit la main droite de James Noon sur le deuxième écran. Puis il se leva de façon à être juste au niveau des moniteurs et se pencha à quelques centimètres de chacun d'eux pour examiner et comparer les deux mains. « Bon, tenez, regardez là. » McCaleb se leva à son tour et examina les deux images. La première a une petite cicatrice sur une phalange, vous voyez la décoloration ? McCaleb se pencha sur la main droite du bon samaritain. « Attendez une seconde, » lui dit Banks en ouvrant un tiroir pour en sortir un compte-fil du genre de ce qu'on utilise pour étudier un négatif de photo sur une table lumineuse. « Essayez avec ça. » Mac Caleb posa la loupe sur la phalange et regarda au travers. Il découvrit un petit tortillon de tissu cicatriciel blanchâtre sur la phalange. L'image était certes assez floue, mais il remarqua que la tache avait la forme générale d'un point d'interrogation. « Bien, dit-il, voyons l'autre. » Il fit un pas à gauche et se servit du compte-fil pour repérer la même phalange sur la main droite de James Noon. Celle-ci ne se trouvait pas dans la même position, mais le tortillon de tissu blanchâtre y était bel et bien visible. Mac Caleb ne bougea plus et scruta l'image, jusqu'au moment où il fut sûr et certain de son affaire et ferma les yeux un instant. Ça y était, c'était le même homme qu'on voyait sur les deux écrans. « Alors, demanda Banks, la cicatrice y est ?» Mac Caleb lui rendit le compte-fil. « Elle y est, lui dit-il. Est-ce qu'il y aurait moyen d'en avoir un agrandissement photographique ?» Banks s'était mis à regarder le deuxième écran. « Ouais, dit-il, elle y est. Eh oui, encore, je peux vous faire des agrandissements. Je transfère l'image sur disque et j'emporte tout ça au labo, ça sera prêt dans quelques minutes. »« Merci, Tony. J'espère que ça va vous aider. » »« Bien plus que vous ne l'imaginez. » »« Qu'est-ce qu'il fabrique, ce bonhomme ? Il s'habille en mexicain pour faire des bonnes actions ?» Pas vraiment, non. Un jour, je vous raconterai toute l'histoire. » Banks laissa filer et, se mettant aussitôt à travailler sur la console, transféra les deux images vidéo sur un disque d'ordinateur. Puis, il rembobina les bandes et en profita pour transférer aussi les deux profils de James Noon. « Bon, dit-il en se levant, je reviens dans quelques minutes, à moins que je ne sois obligé de faire chauffer la machine. Et est-ce que je pourrais téléphoner ? Dans le tiroir de gauche, faites le 9 pour sortir. » Mac Caleb appela Jay Whiston chez elle et tomba sur son répondeur. En écoutant sa voix, il hésita encore à lui laisser un message. Il ne savait que trop tout ce qu'elle encourait si jamais on arrivait à prouver qu'elle avait travaillé avec quelqu'un qu'on s'apprêtait à inculper de meurtre, et un message enregistré y suffirait amplement. Pour finir, il arrêta néanmoins que les découvertes qu'il venait de faire valaient bien qu'il tente le coup. Quant à l'appeler sur son bipère, non, il n'avait pas le temps d'attendre qu'elle le rappelle. Il fallait agir. Il concocta un plan d'action et lui laissa le message suivant. « Jay, c'est moi, je vous expliquerai tout dès que je vous verrai, mais pour l'instant, faites-moi confiance. Je sais qui est l'assassin. C'est Noon, Jay. James Noon. Je m'en vais chez lui tout de suite. L'adresse est sur sa déposition. Essayez de me rejoindre si vous pouvez, je vous expliquerai tout ça là-bas. » Il raccrocha et appela le bipère de Winston. Puis il y entra le numéro personnel de l'inspectrice et raccrocha. Avec un peu de chance, elle aurait son message assez vite pour le rejoindre avec des renforts. Il posa sa sacoche en cuir sur ses genoux et ouvrit la fermeture éclair de la poche intérieure. Ses deux armes s'y trouvaient toujours, son Sig Sauer P228 et le HKP7 que James Noon, il le savait maintenant, avait attaché sous son bateau. Il plongea la main dans sa sacoche et en sortit son pistolet. Il en vérifia le mécanisme et glissa l'arme dans sa ceinture au creux des reins. Puis, il enfila sa veste par-dessus.